Aujourd'hui, on partage par ici la musique avec une petite pomme. Bah, dit comme ça, je ne sais pas si c'est tout à fait raisonnable, mais Petite Pomme, c'est le nom d'artiste de Maria Kopp, qui est aujourd'hui l'invitée de Par ici la musique. Son envie est de faire de la musique classique, mais de la rendre accessible à tous. C'est ce qu'elle fait, notamment avec ce Cold Song. Vous savez, c'est un extrait du Roi Arthur de Henry Purcell. Une version pop avait déjà été réalisée dans les années 80 par Klaus Nomi. Une nouvelle version est proposée ici, par Petite Pomme.
Par ici la musique.
Maria Kopp, petite pomme que l'on a rencontrée la semaine passée dans une cave à vin à Neuchâtel. C'était l'occasion pour elle de présenter ce CD, d'interpréter quelques titres lyriques. Et puis surtout, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce nom de petite pomme. Elle qui adore la musique classique et lyrique, je me demandais si Petite Pomme était vraiment un nom très lyrique.
Non, c'est plutôt ludique. J'avais justement pas envie d'être carré dans la musique classique. Et puis, en fait, ça vient juste du fait qu'on m'a dit que j'étais toujours haute comme trois pommes. Alors, je m'étais dit, Petite Pomme, ça fera joli.
Votre but est de démocratiser cette musique classique, c'est de casser un petit peu les barricades.
Oui, c'est de la rendre accessible en fait à des gens qui se diraient ben, la musique classique, j'irais pas forcément l'écouter. Donc là, s'il y a un arrangement un petit peu plus pop, un petit peu plus au goût du jour, ben, ça donnera peut-être envie à des gens qui s'approchent pas forcément de cette musique de s'y approcher.
Pour vous, la base, c'est quand même la musique classique. Vous en avez beaucoup entendu, vous en avez beaucoup écouté. Les compositeurs, à la base, vous ont marqué.
Oui, j'aime particulièrement les compositeurs italiens d'opéra dramatique, évidemment. Mais après, c'est vrai que la musique classique, ben, j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Et j'adore ça, ça me fascine. Et puis au niveau technique, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à faire non plus. Mais c'est assez gratifiant après quand on arrive au but qu'on aimerait réaliser.
Vous avez su très vite que vous alliez faire de la musique et de la musique classique.
Alors de la musique, j'y suis très vite, parce que quand à 4 ans, on m'a demandé à l'école ce que je voulais faire, j'ai dit je serais chanteuse internationale. Donc voilà, et puis après, la musique classique, bah, après c'est venu sur le tas, parce que j'ai commencé le piano au conservatoire à 4 ans, et j'ai toujours chanté dans des chorales d'enfants, et après je me suis dit, j'aimerais justement, quand j'étais la première fois à l'opéra, je me suis dit ça, un jour, moi je le ferai aussi.
Thank you.
le piano à 4 ans, c'était une volonté personnelle ou est-ce que c'était finalement aussi un coup de pouce du destin et des parents de la famille ?
Je dirais que là, à cet âge-là, c'était plutôt un coup de pouce du destin parce que, en fait, mes parents, ils accueillaient chez eux des pianistes internationaux et qui venaient répéter à la maison. Et puis moi, j'étais fascinée par ces immenses partitions remplies de notes. Et en fait, je me suis mise comme ça pour rigoler. Et après, mes parents, ils m'ont dit, si ça te fait envie, on t'inscrit pour des cours de piano au conservatoire. Et c'est vrai que j'ai assez vite pris goût à ça. Après, j'ai aussi vite arrêté.
Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents et qui étaient ces musiciens qui venaient chez vous ?
Alors en fait, on habitait à la Tour de Paix et à Blenay, il y a chaque année une semaine internationale du piano. Et ils recherchent toujours en fait des endroits où les artistes peuvent répéter. Parce que sur la semaine, il y a à peu près 30 à 40 artistes internationaux qui sont là pour jouer du piano. Parce que là, c'est vraiment axé sur le piano. Et c'est vrai que mes parents, je prenais des cours chez la personne qui organise ce festival, avaient dit pour nous, il n'y a pas de souci, ils peuvent venir. Et c'est comme ça que en fait, c'est venu. Et puis après, j'ai vu justement, j'ai vu ces gens répéter des œuvres incroyables et je me suis dit comment ils font, les doigts ils vont si vite. Et puis à 4 ans, j'étais là devant les partitions, puis j'essayais de déchiffrer comme je pouvais. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait.
Par ici, la musique.
Quelle est la première œuvre qui vous a marqué ?
La première œuvre qui m'a marqué, c'est la sonate au clair de lune de Beethoven. Ça, je trouve, c'est juste magnifique. C'est une vacherie à apprendre, mais c'est très, très beau à entendre. C'est juste très, très beau.
Pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi c'est une vacherie, comme vous le dites ?
Parce que c'est... Il faut que la personne qui écoute ce morceau se dise « Ah, mais c'est tellement simple !» Musicalement, c'est facile à entendre, ça a l'air facile à jouer, il faut que ça ait l'air facile, et c'est pas du tout facile. C'est très technique, et puis je demande d'être doux quand il faut, énergique quand il faut aussi. Enfin, tout est mélangé dans cette sonate, puis je trouve ça juste... les trois mouvements, en tout cas, je les adore.
Un des premiers événements marquants pour vous, c'est à l'âge de 8 ans, la découverte de la flûte enchantée de Mozart.
Ah oui, ça c'était magnifique. J'étais en fait à l'opéra parce que mes grands-parents habitaient Zurich. Et j'étais à l'opéra et ça a été adapté exprès pour les enfants. Et j'étais fascinée de voir ces gens qui chantent par-dessus un orchestre qui est quand même passablement grand. Il y a 30 à 40 musiciens et il n'y a pas de sono. Et je me disais, mais comment ils arrivent par eux-mêmes à passer par-dessus tout ça, c'est incroyable.
Vous aviez conscience à l'âge de 8 ans que ces gens chantaient sans micro, qu'il y avait une performance vocale incroyable ?
Oui, parce qu'on me l'avait dit. Parce qu'on m'a dit, justement, avant d'aller, tu verras, c'est des gens qui chantent par eux-mêmes, par leur corps, ils arrivent à se faire entendre. Après, c'est sûr, les salles, tous ces opéras sont construits de telle manière à ce que ça aide aussi le chanteur à pas s'époumoner au bout d'une heure et demie. Mais c'est vrai que souvent, c'est des œuvres qui sont longues et... au niveau de la technique, ça doit être irréprochable. C'est comme un athlète de haut niveau et il faut tout le temps être juste, bien placé, sinon ça passe pas, sinon on n'entend pas. Et ça, c'est vrai que quand moi j'ai vu ça, je me suis dit un jour, moi je le ferai.
Thank you. Lorsque vous aviez 8 ans, vous aviez déjà 4 ans de piano dans les mains, tout de même. La voix, la volonté de chanter est arrivée à ce moment-là ou c'était déjà clair aussi dans votre esprit ?
Ah non, moi déjà à l'âge de 4 ans, je savais que c'était le chant que je voulais faire. Ouais. Mais j'avais pas le choix parce que bah, le chant, bah, vous pouvez, en tout cas en filière classique, vous pouvez pas le commencer avant l'âge de 16 ans. Donc j'ai rangé mon frein jusqu'à l'âge de 16 ans et après bah, j'ai eu énormément de plaisir à commencer mes études de chant.
Quelles étaient les voix qui vous passionnaient lorsque vous étiez adolescente ou lorsque vous étiez enfant ?
Alors la calas, ça c'est sûr, ça c'est le sommet. J'ai adoré ça, donc j'adore sa voix, sa personnalité et tout. Après j'aimais bien aussi, donc toujours en étant dans le lyrique, j'aimais bien Montserrat Caballé. Je trouve que c'est une voix aussi qui est toute dans la finesse et du velours, enfin du velouté. Après j'ai eu beaucoup de chance aussi de pouvoir écouter Ruggero Raimondi. C'est aussi un ténor incroyable. J'ai un faible pour les ténors, je l'avoue. Mais enfin voilà, c'est toutes des voix comme ça qui aujourd'hui ont gentiment arrêté. Mais c'est des voix qui m'ont accompagné aussi dans mes études.
Le chant lyrique est à l'honneur aujourd'hui dans Par ici la musique avec Petite Pomme, Maria Kopp, qui est notre invitée aujourd'hui.
Mais vous avez jamais écouté des groupes, des Super Trump, le Top 50, tout ça, c'est des musiques qui ne vous avaient jamais spécialement attiré. Vous étiez vraiment ancré dans la musique classique.
Non, alors à côté, j'aimais bien écouter Status Quo, Queen, tout cela, j'adore. Ouais. C'est sûr, les Rolling Stones, c'est parfait. Mais c'est vrai que j'aime bien tout ça, mélanger tout ça. C'est des gens, même si, par exemple, si on écoute Scorpion, c'est des gens qui avaient aussi une base classique à la base et qui en ont fait, qui ont fait de l'excellent rock. Et j'aime ça aussi.
Justement, ce sont des groupes où on pense à leur voix. Hein. C'est vrai qu'ils ont des voix magnifiques. Freddie Mercury ou des gens comme ça sont tout de même des voix exceptionnelles aussi. Freddie Mercury, dans certains cas, était proche des gens de la musique classique puisqu'il a fait des duos, notamment avec Montserrat Caballé.
Ouais, Barcelona, ouais. Mais non, c'est des gens, techniquement, moi, j'ai rien à dire. Je veux dire, c'était magnifique. Ils ont une maîtrise. Mais même, vous prenez les Rolling Stones ou Scorpions, c'est la même chose. AC/DC, c'est pareil. Hein. Ils ont aussi tous une formation classique et puis actuellement un groupe qui est peut-être un peu plus actuel aussi qui mélange le côté même métal avec le côté lyrique, c'est Nightwish. Et ça, je trouve, c'est magnifique. Je trouve que le classique doit pas rester que dans une filière on va à l'opéra, on va aller écouter un concerto. Je trouve que le mélange peut se faire très bien.
Des fois on dit que si Mozart était né aujourd'hui, il ferait probablement du rock.
Ah oui, ça j'en suis persuadée. Ah oui, c'est sûr. Non, mais il était tellement incroyable, mais très avant-gardiste aussi pour son époque, je pense, de comme il composait. Mais lui, c'est ce qui est incroyable, c'est que c'est tout est simple, tout paraît. C'est comme si vous aviez pu le composer vous-même, presque tellement la mélodie quand vous chantez le début, vous pouvez pratiquement chanter la fin. Vous êtes sûr que ça tombe exactement où il a voulu. Enfin, c'est hyper bien construit. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, je pense, qui était ouvert à plein d'univers différents, qui n'était pas classé. Moins rigide, je pense, qu'une musique baroque ou une musique qui est peut-être un peu moins adaptable au côté pop.
We'll be right back.
Maria Kopp, aujourd'hui vous sortez un single. Pour vous, c'est important ce CD?
C'est comme un bébé. Non, c'est vrai, j'ai mis presque 9 mois pour le faire et c'est juste génial, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et puis là, je l'ai vraiment fait avec un accompagnement comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire pop, en prenant quelque chose que tout le monde connaît, parce que cette chanson, elle a quand même été popularisée avec Klaus Nomi. Donc ça, tout le monde, dès que les gens entendent les deux premières notes, ils se disent « Ah ouais, j'ai déjà entendu ça une fois ». Et puis après, pour moi, ce qui était le travail intéressant, c'est quand même de faire une personnalisation, que les gens l'entendent, se disent « Ah ben, il y a quand même quelque chose de nouveau ». La mélodie, certes, est la même, mais l'accompagnement, il y a quelque chose de personnel. On sent que y a sa patte ou il y a quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a voulu mettre en avant. Et j'en suis très fière.
Cold Song, c'est le CD qui vient de sortir. Le premier CD, le premier titre enregistré par Maria Kopp sous ce nom de Petite Pomme. Cold Song, c'est en fait un titre que l'on a connu dans les années 80 avec Klaus Nomi qui avait déjà fait une version moderne d'un extrait du roi Arthur d'Henri Purcell. Ariel Dombal, l'année passée, a fait sa version à elle. Aujourd'hui, la version de la région, c'est celle de Maria Kopp, Cold Song.
Ce qui était très important pour vous à un moment donné, c'est de vous détacher du monde de la musique classique, même de vous détacher des murs du conservatoire. Vous avez envie d'évoluer avec la musique, même classique, mais avec une grande indépendance. C'est ça qui caractérise aujourd'hui Maria Kopp.
Ah oui, complètement. Moi, comme j'ai dit avant, j'ai eu beaucoup de plaisir à apprendre, à avoir une base, parce que finalement, le conservatoire, c'est comme si vous faites de la grammaire. Il faut savoir écrire avant de pouvoir écrire. Et puis aujourd'hui, avec le bagage que j'ai eu au conservatoire, j'ai eu la chance de pouvoir actuellement faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer des accompagnements, mélanger justement ce classique au pop, parce que justement, le problème avec les gens se disent, elle fait du classique, c'est pour les vieux. Non, c'est pour tout le monde. Et actuellement, je pense qu'il y a plein d'exemples, comme des groupes de ténors là, qui tournent en France ou dans le monde entier, ou même des chanteurs lyriques qui sont tout seuls et qui reprennent des choses un peu pop. Roberto Alagna, par exemple, pour pas le citer. Et c'est quelqu'un qui allie les deux parfaitement, mais qui renie pas, parce que moi, ça, j'ai pas envie non plus, c'est de renier tout ce que j'ai appris. Ça, c'est hors de question. Parce que pour moi, ça, c'était important. C'est un travail que j'ai fait pendant 9 ans. Donc, je ne peux pas dire, du jour au lendemain, j'ai envie de faire du bachung, ça va pas le faire. Donc, non, pour moi, il faut vraiment que je reste fidèle à moi-même en essayant de m'adapter quand même à ce qui se fait actuellement. Thank you.
On est dans un lieu ici incroyable. On va quand même juste le dire, on est dans la cave de Jean-Philippe Beaumestre, qui est un grand passionné de musique classique. Et vous me disiez, mais c'est quand même un lieu incroyable, c'est un lieu magique. En plus, le personnage de Jean-Philippe est quand même un personnage incroyable. C'est un lieu qui vous fascine, qui vous inspire, même pour la musique que vous interprétez.
Ah oui, moi c'est un lieu. Moi quand la première fois que je suis arrivée chez lui, j'avais l'impression d'arriver dans un pays enchanté. J'ai jamais vu une cave avec un piano à queue au milieu. Je trouvais ça magnifique. En plus, on entend la musique de loin, dehors. C'est juste, c'est ça qui m'a attirée. Et puis après, le fait que ça soit quelqu'un qui soit aussi passionné de musique, évidemment, ça a aidé. Et j'avais envie vraiment de, bah oui, de marquer l'événement de cette sortie de mon single chez lui, parce que je trouve que c'est juste parfait.
Lorsqu'on donne un concert ici, on se sent comment ? Dans quel état d'esprit on est ? Parce qu'on n'est pas dans une salle traditionnelle, donc le public va aussi réagir différemment. Puis on sent qu'il y a quelques grands crus qui nous écoutent.
Oui, mais c'est comme si on faisait comme les visiteurs. Ah, simplement, on fait dans l'autre sens. C'est comme si on était dans une période au Moyen-Âge. Enfin, c'est très... Oui, il y a des vibrations qu'il n'y a pas ailleurs, je trouve. C'est une cave. Et moi, j'aime bien, je trouve, parce que ça reste... ça s'allie bien, justement, avec le classique. Il reste quand même quelque chose d'ancien. Et j'en fais quelque chose de neuf. Et je trouve que c'est un lieu que j'aime bien, qui m'inspire, c'est vrai.
Il y a une autre aventure dont on peut parler, puisque c'est réellement l'actualité. C'est Incroyable Talent sur M6. On va vous voir très prochainement, le mardi 16 décembre. C'est une aventure incroyable d'entrer dans Incroyable Talent. C'est une aventure, comment est-ce que vous pouvez en parler aujourd'hui avec un petit peu de recul, puisque les enregistrements ont été effectués il y a quelques mois maintenant?
Alors c'est une aventure incroyable, tant qu'on n'y est pas, on ne réalise pas, parce que c'est ce que j'appellerais une immense machine qui fonctionne très très bien, qui est très bien huilée, mais je trouve que pour un artiste, c'est un privilège de pouvoir passer dans ce genre d'émission, parce que ça apprend plein de choses sur... Les coulisses d'une émission pareille, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est même pas le quart de ce qu'on a enregistré. Et je trouve que toute cette attente de se dire on va passer devant un jury, on va être jugé, après on réalise pas non plus que quand on passera devant le jury, il y aura des millions de gens qui seront derrière leur poste à regarder ce qu'on a enregistré pendant toute la journée. Donc tout ça, c'est comme si on était dans un état second pendant toute la journée, et puis après quand c'est fini, on se dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?
Justement, artistiquement, vous avez l'impression que ce n'est pas là qu'on peut le plus donner, parce que c'est difficile de se concentrer avec tout ce qui se passe autour de la réalisation de l'émission.
Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que le moment le plus crucial, quand même, dans toute l'émission, c'est le passage devant le jury. Mais après, le fait que ça soit aussi devant un public, c'est juste magnifique. Parce que le public, ça ment pas. Vous pouvez pas les faire applaudir ou les faire se lever s'ils ont pas aimé. Donc ça, c'est vrai que c'est des moments magnifiques. Après, le moment du jugement, ça peut être un très grand moment de solitude.
On n'en dira pas plus pour l'instant, parce que... On a le droit de dire que vous avez participé à l'émission, mais on ne dit pas encore jusqu'où vous êtes allé. On ne le dit pas parce que vous êtes sous contrat, il y a un contrat particulier quand même. Hein. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'ai simplement le droit de dire que j'y ai participé et que je vais y passer, mais je n'ai pas le droit de dire le résultat. Et après, je ne peux pas non plus commencer à jouer sur ça pour essayer d'attirer des gens ou des médias. En fait, après, ça doit venir à moi. Les gens doivent venir à moi si ça les intéresse. Mais je ne peux pas jouer avec leur image d'Incroyable Talent, qui est quand même connue au niveau européen, c'est sûr. Donc ça, je n'ai pas le droit de faire et donner le résultat.
Oh,
Votre prochaine envie, votre prochain défi, c'est un album, évidemment, mais ce sont aussi des concerts, la volonté de rencontrer le public, de rencontrer un nouveau public.
Alors ça, j'y travaille, oui. C'est pas forcément toujours évident de trouver des lieux qui soient adéquats aussi pour ma musique. Je pourrais pas faire un concert à la Caja Choc, je pense que ça irait pas trop bien. Donc c'est vrai que je cherche des endroits pour me produire. Là, j'en ai déjà un prévu pour le 18 février au Moulin à Beuvais. Mais c'est vrai que je suis toujours à la recherche d'endroits pour pouvoir me produire, qui soient aussi un peu différents de ceux que j'ai fait l'année dernière. Parce que l'année dernière, j'ai déjà eu l'occasion et la chance de pouvoir faire un concert par mois. Donc après, c'est vrai que j'ai pas envie de faire pour faire. Donc je me laisse le temps de trouver le bon endroit où il y aura... où la musique va bien passer. Parce qu'étant donné que je mélange un peu les styles, il faut que ça soit un endroit qui soit adéquat pour ça.
Par ici la musique.
Est-ce que vous avez l'impression parfois qu'il faut être un peu fou pour entamer une carrière comme celle-ci ? Ou un peu folle du coup ?
Ah mais je pense qu'il faut être complètement barré et puis je connais pas un artiste qui est pas fou. Alors je pense qu'il faut de la folie, c'est sûr. Mais après il faut un mélange des deux, il faut de la folie puis il faut avoir les pieds sur terre. Et puis se dire que ben, chaque étape est importante et pas en brûler une. Et ça, c'est sûr que ben, y a des fois, évidemment, quand on vit ce que j'ai vécu, un incroyable talent, c'est, on vous donne une importance que finalement vous n'avez pas dans la vie de tous les jours. Et puis ça, c'est pas forcément toujours facile à gérer non plus. Mais ça, je pense que c'est important d'avoir un grain de folie. Ouais.
Ça veut dire que lorsque vous avez trop les pieds sur terre, il vous faut un peu de folie pour pouvoir vous évader un peu. Lorsque vous êtes un peu trop folle, il est bon aussi de revenir sur Terre.
C'est exactement ça, ouais. C'est comme la pomme avec Newton. Il faut au bout d'un moment qu'elle retombe sur la Terre. Il faut que l'attraction revienne. Donc non, ça c'est important. Ouais. Je pense qu'il faut un mélange des deux. Il ne faut pas être trop carré et puis pas trop fou non plus. Mais un petit peu quand même.
Elle était notre invitée aujourd'hui pour Par ici la musique, Maria Kopp, Petite Pomme. On aura encore l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, n'oubliez pas qu'elle sera à la télévision sur M6 mardi soir dans Incroyable Talent. À bientôt.